Bonjour, ici Roger Malina sur Creative Disturbance. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Yoann Chardonnay et Fabrice Lapeltrie. Alors Fabrice, peut-être tu peux te présenter en trois mots.
Oui, donc je suis historien de l'art indépendant. J'ai effectué ma thèse sur l'œuvre et la vie de Franck Malina, ingénieur et artiste, qui a surtout œuvré, en tout cas en tant qu'artiste, dans l'art cinétique dans les années 50-60, et brillant ingénieur en astronautique, en aéronautique, dans les années 30 et 40 aux États-Unis.
Yoann?
Moi, je suis auteur, journaliste, commissaire d'exposition avec une pratique artistique. Je m'intéresse depuis de nombreuses années aux relations entre art et culture spatiale. Et dans ce contexte, je me suis intéressé fortement à Franck Malina et à ses collègues à la fondation du Jet Propulsion Laboratory dans les années 40.
Donc je suis Roger Malina, le fils aîné de Franck Malina, qui était en effet un pionnier de l'astronautique américaine. Dans les années 50, a une pratique artistique et un des créateurs du mouvement de l'art cinétique à Paris. Donc pour ceux parmi vous qui ont écouté notre première discussion, on a un peu fait une discussion des impulsions, des influences. Et on a commencé à discuter les relations, pas seulement art-science, mais son et image. Et peut-être on peut reprendre cette discussion.
Moi, je voulais ajouter parce que donc j'avais parlé précédemment de Thomas Wilfred et de Lev Theremin, qui étaient proches. Donc Lev Theremin ayant développé plutôt des instruments de musique qui impliquaient la gestuelle et fonctionnant sur l'électromagnétisme. Donc c'était un instrument avec le geste dans l'air et aussi pour la danse. Et Thomas Wilfred plutôt dans une recherche synesthésique avec son clavier lumière, image, clavier luxe. Et donc j'étais tombé donc en faisant mes recherches sur une assistante des deux qui s'appelait Marie-Hélène Butte, qui a travaillé avec les deux, qui a ensuite réalisé des films expérimentaux, donc mêlant, disons, géométrie et musique, qui a même projeté dans les salles de cinéma, souvent dans des contextes de première partie. Donc il y a eu un certain succès dans les années 40, mais qui a fait ses débuts en tant qu'assistante avec ces deux artistes. Et dans un interview, Theremin raconte qu'ils avaient rencontré et travaillé. Einstein était venu les voir, Albert Einstein, parce qu'il y avait dans cette époque un contexte de recherche sur les significations de la relation entre les formes géométriques de base, le son, si on peut trouver des analogies. Et Albert Einstein faisait des recherches. Alors je trouvais ça.
Albert Einstein, le physicien.
Oui, le physicien faisait des recherches sur cette question-là. Et donc c'était intéressé à Theremin là-dessus.
Enfin, je sais qu'Einstein privilégiait beaucoup l'imagination visuelle, hein, donc la réflexion par les images plutôt que par le texte ou par l'écrit. Tu veux rebondir, Fabrice,
Oui,
sur cette
mais justement,
question?
c'est cette histoire de l'utilisation de l'imagination par les scientifiques. En fait, au final, on se rend compte que c'est ce qui rapproche l'artiste et le scientifique, c'est-à-dire que l'activité cérébrale, autant dans la découverte scientifique que dans la pratique artistique, peut être rapprochée très facilement. Il y a encore récemment ce mathématicien français qui s'appelle Cédric Villani, qui a publié un livre en 2012 sur son travail de mathématicien et sur ce qu'il a permis, enfin ce qui lui a permis d'obtenir la médaille Fields des mathématiques. Et donc aujourd'hui, il dirige l'Institut Poincaré et on connaît très bien Poincaré pour ses travaux et ses écrits justement où il décrit comment il travaille en mathématiques et que bien souvent les découvertes ont été faites de manière spontanée sans vraiment les attendre. Cédric Villani reprend ces exemples-là. Il raconte que lui-même a vécu cet instant-là, cet instant de créativité ou cet instant de réka en fait, mais qui en réalité est un travail presque inconscient.
Là, alors, Yuen, je crois que tu as retrouvé une lettre de mon père de 46 qui parle un peu de ça.
Oui. Elle est là, peut-être que je peux même vous le lire, le petit passage. Donc c'est dans une lettre donc de mars 46 où il raconte ses recherches sur les relations entre art et science. Peut-être je lis le passage en anglais.
Oui, oui.
I have been struggling with the basic ideas of art and science, and we have found a common ground for both activities that now produce constructive interchange of ideas. In a sense, the common ground revolves around the individual judgment of inherent rightness for pioneering steps taken in the direction of undiscerned reality. We think that every creative human with courage depends on the feeling of inherent rightness in his activities, because what is being done is uncertain until proved correct.
Donc, inherent rightness, c'est intéressant parce que c'est une phrase qui circule pas beaucoup, en effet, de la recherche de quelque chose qui sent juste.
Oui, de la justesse.
Alors, Fabrice, je sais qu'une des choses que t'as vu dans les archives de mon père, c'est qu'il s'est beaucoup intéressé à la psychologie et les sciences cognitives contemporaines pour essayer de comprendre, en effet, comment le cerveau interprétait les stimuli. Tu peux en parler un peu?
Oui, alors il s'est effectivement intéressé à la perception du mouvement qui était très étudiée à ce moment-là. Alors il s'est mis en contact avec des gens comme Albert Michotte, qui n'est pas très connu, mais qui a écrit en 1946 un ouvrage qui s'appelle « La perception de la causalité », qui en fait essaye d'analyser à travers la perception du mouvement comment, en fait, cette perception du mouvement est générée dans l'esprit. Et ce qui est très intéressant, c'est que Albert Michotte utilisait une machine, qui était une machine à disque, qui était très, très proche des œuvres cinétiques de Frank Mellina.
Et celle de Duchamp aussi.
Et voilà, par extension, celle du rotorelief qui était venu après. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir qu'au final, lorsqu'on regarde une œuvre cinétique, et pas forcément une œuvre cinétique de Frank Mellina, quelque part, l'artiste essaye d'agir sur notre cerveau et de nous placer peut-être dans cet état d'esprit à la fois du scientifique et de l'artiste, c'est-à-dire de se mettre dans un état relaxé, dans un état de calme qui permet justement aux idées de surgir un peu comme surgissent les idées chez les scientifiques et les artistes de manière spontanée. Par exemple, on imagine très bien quelqu'un rentrant le soir chez soi allumer un tableau de Mellina qui représente le mouvement des planètes et puis il va se mettre à penser au cosmos, au mouvement de ces planètes. Et dans cet état un peu hypnotique, le cerveau va se mettre en fait dans une situation propice à l'émergence d'une réflexion sur sa propre situation dans le monde.
Donc en effet, mon père, je me rappelle, avait fait la comparaison qu'il voulait qu'une de ses œuvres cinétiques, d'abord c'était quelque chose avec lequel on vivait, hein, c'était pas, on n'allait pas à la galerie ou au musée pour voir l'œuvre, c'était quelque chose qui faisait partie des meubles de sa maison. Et c'est un peu comme si on regardait les cendres d'un feu, et le soir, on commence à penser à autre chose, à se préparer à dormir. Et donc, on est en état de conscience, peut-être très ouvert à la réflexion. Alors là, ça permet peut-être, Yuen, de rebondir, qu'en effet, dans le contexte des années 30, un des grands amis de mon père, c'était Jack Parsons. Et là, il y a tout un pendant de ce qu'on appelle aujourd'hui le New Age californien. Tu peux un peu expliciter tout ça?
Oui. Frank Mellina a rencontré Jack Parsons vraiment très tôt, hein, quand ils ont démarré ensemble ce programme Galsit de recherche sur la fusée.
En 33-34
Oui, 36. Et donc, comme ils avaient un troisième acolyte qui s'appelait Edward Foreman, ils ont travaillé tous ensemble intensément au départ pour mettre en place ce programme de recherche. Et ils ont été jusqu'à... ensuite, ils ont intégré un Chinois qui s'appelait Tien. Et ils ont travaillé ensemble sur des romans. Ils ont commencé à avoir aussi une activité littéraire ensemble, parce que personne s'était passionné de littérature. Et ce dernier, à un moment donné, suivait un certain nombre de conférences qu'il pouvait voir à Los Angeles, notamment Aldous Huxley ou Krishnamurti. Il avait un intérêt particulier pour la spiritualité, les nouvelles spiritualités. Krishnamurti étant un gourou qui était issu de la théosophie puis qui s'en était libéré. Aldous Huxley, qui avait écrit déjà Le meilleur des mondes et qui était dans des recherches sur le bouddhisme à ce moment-là, qui était devenu proche de Krishnamurti. Puis il rencontre d'autres gens qui est plutôt dans la gnose autour de l'Ordo Templi Orientis, c'est-à-dire le groupe, la philosophie de Thélème de Aleister Crowley, qui était aussi émergente à Los Angeles. Donc, il se rapproche, il va à une messe gnostique de ces gens-là et s'en rapproche progressivement pour finir par intégrer le groupe en 1940, je crois. Et durant la Seconde Guerre mondiale, être intensément impliqué dans ce groupe ésotérique.
En effet, donc c'est intéressant de voir en Californie du Sud comment, en effet, ces milieux culturels, théosophistes, spirituels et les milieux ingénieurs, recherche se croisaient dans les salons, l'idée circulait. Alors il faut dire que mon père, quand je l'ai connu, était plutôt positiviste, rationaliste et pas du tout intéressé par la spiritualité de ce type. Il était lui plutôt obsédé sur comprendre la cognition humaine et comment le cerveau interprétait les stimuli qui arrivaient. Et je crois que dans les années 50 à Paris, ces mouvements spiritualistes n'étaient pas très présents, ou est-ce que je me trompe ?
Non. Pas vraiment. Je pense que toutes ces influences... Alors, curieusement, il y avait quand même une partie de la Beat Generation qui était présente à Paris dans les années 50, dans le quartier Saint-Germain. Mais je pense que ça restait encore très souterrain.
Il y avait tout de même les nouveaux réalistes. Yves Klein, par exemple, oui. Qui s'intéressait aux spiritualités asiatiques.
Par sa pratique,
ou,
oui.
Mais plutôt, c'était plus dans le sud de la France, peut-être, aussi.
On a fait un deuxième tour d'horizon. Alors, Yuen, tu as un blog où on peut trouver d'autres informations. C'est quoi l'adresse?
Le blog, c'est mon adresse personnelle, yuenchardronnet.com. Et ensuite, le projet de recherche s'appelle Mojave Epiphany.
Oui.
Donc, sur mon blog personnel, yuenchardronnet.com, pour trouver ça.
Bon, et toi, Fabrice, on peut trouver...
On peut trouver une partie de mon travail, en tout cas du résultat de mon travail sur le site www.olatz.org. Vous avez de nombreux documents écrits par Franck Malina, tant au niveau de sa carrière scientifique, artistique, un catalogue très bien fait de son œuvre artistique où on peut interroger à partir de plusieurs requêtes le catalogue artistique de Franck Malina, des documents audio, des documents visuels, voilà. Donc c'est.
Ok, très bien. Écoutez, merci Fabrice, merci Yuen. À la prochaine.